soyez les bienvenus avec Leïla Kaddour Boutadi.
Bonjour à tous.
Guillermo, Louise, Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin. Oui. Tout à l'heure, il y aura Tanguy Passion.
Ah, bonjour.
Et nos invités sont Julie Depardieu et Régis Albert. Oh. Soyez les bienvenus. Julie, vous êtes déjà venue dans l'émission. Régis, je crois que c'est votre première.
C'est la première, bonjour.
C'est sûr que c'est la première fois.
Oui.
Ouais,
Quoi, c'est sûr.
Ah, toi, parce que je suis super contente de vous voir, en vrai.
Ah bon?
Elle est fan.
Déclaration.
Merci. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. En fait, que ce soit au théâtre ou dans la vie, il a la côte. Hein, parce que dans la pièce.
La côte, pas la côte.
La croix, attends.
Non, non, mais il est fatigant, lui, avec ses accents.
Si, monsieur.
Oh là là.
Non, mais c'est vrai, vous êtes le séducteur de Fric Frac.
Ah oui,
vous les faites
le pigeon.
Ah non, il est fait tomber.
C'est sûr,
il
mais
est fait
pour
tomber.
Certaines raisons,
il est fait
on
tomber.
Dira pas.
On va en parler de cette pièce mise en scène et interprétée également par Michel Faux. À vos côtés, donc Régis Lapalès et Julie Depardieu. Il y a ce fric-frac qui a marqué les esprits avec son argot et sa gouaille à la Arletty. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, faisons connaissance avec Julie et avec Régis. C'est des petites questions. Vous répondez pas tout de suite. C'est à eux de savoir s'ils ont travaillé vos dossiers, s'ils vous connaissent bien.
Ouais, non, c'est pas juste parce que vous allez voir les questions, Régis, c'est pas facile.
Non, c'est pas facile.
Parce que Régis me regarde, genre, tu vois, on va voir si tu me connais bien, tu m'aimes bien, mais là.
Pourquoi... Non, je crois qu'il est en train de te draguer.
Pourquoi, lors du tournage du célèbre Cyrano de Bergerac, Julie Depardieu était-elle surnommée Julie Potcol?
Parce qu'elle ne lâchait pas.
Le réalisateur?
Non.
La caméra?
Non.
Parce qu'elle a fait.
Parce qu'elle sniffait de la colle là, entre les prises.
Elle sniffait de la colle, non, je crois
non,
pas.
Non, elle mangeait de la colle entre les
prises. Non plus. Julie Potcol. Ah, mais arrête de faire des signes.
Bah, non, mais j'ai rien dit. Ah,
non, t'as fait des signes.
Je mangeais pas de colle.
Ah, elle était collée au catering.
Non.
À la table régie. Enfin,
non.
Je faisais des.
Ça, c'est tout. Surtout les tournages, tout le monde.
Hein. Des travaux créatifs à la main avec de la colle.
Non. Julie Potcol, c'est son surnom.
Julie Potcol.
Parce que c'est son vrai nom de famille. C'est son vrai nom de famille.
Non.
Un indice, parce que là, on.
Ouais, s'il te plaît. L'indice, c'est Cyrano de Bergerac. Voilà, exactement.
Ah, le nez, le scotch, le nez, la prothèse.
C'était collé avec de la colle spéciale et la distance entre le pot de colle qui était posé sur la table et le visage de Gérard, il fallait quelqu'un qui tienne le pot. Maquilleuse.
Mais surtout, vous étiez voilà, au maquillage, c'est ça qui
était mon rêve,
ça qui est important.
Et j'en mettais beaucoup. Hein.
De quoi?
De maquillage. Non, parce que je faisais 2-3 figurants que j'avais le droit.
Non, mais surtout, quelle responsabilité de s'occuper du nez de Cyrano. Ça veut dire que tout le tournage...
C'est pas moi qui le collais. Hein, et oh. Moi, je faisais répéter le texte en attendant. Vous voyez, j'avais toujours du...
Ah, vous ne teniez que le pot?
Je tenais le pot.
Il y a quelqu'un pour coller?
Ben
il y avait
ouais,
un énorme budget.
Parce que c'était hyper compliqué pour pas qu'on voit les replis. Du latex à l'époque, ouais. C'était ouais, pas comme maintenant, ouais. Comme vous savez.
D'accord.
Et donc je lavais les éponges, taillais les crayons, enfin...
Elle est totalement dans le rôle de Fric Frac.
Je faisais plein de trucs.
Qu'est-ce que Régis Aspalès rêverait d'installer un jour dans son salon?
Une cheminée. Une piscine.
Une piscine non plus.
Pas un ascenseur.
Une cave à vin.
Une Formule 1. Mais comment tu sais ça, toi?
Parce qu'on nous a demandé de lire les notes sur les invités. Je l'ai fait, quoi.
C'est dans la note. C'est dans la note, ça.
T'as bossé.
Lila, elle est dégoûtée.
Non, ouais,
j'ai sauté. Par contre, celle-là, je le savais, mais celle d'avant, je pense que c'était pas dans les notes. Il faut connaître personnellement Julie pour savoir ce qui s'est passé avant.
C'est pas dans les notes.
Exactement, on est bien d'accord.
La Formule 1.
Oui, pas mal.
La Formule 1. Mais vous êtes un passionné de.
Non, pas du tout.
Non, mais parce que. Non, mais attendez. Je réponds à l'autre énergumène. Comme Régis Espalès est totalement claustrophobe, ouais. La Formule 1, c'est quand même la voiture dans laquelle on est le plus serré, le plus coincé.
Oui.
Et je ne peux pas imaginer que vous ayez ce rêve de monter à bord d'une voiture comme ça.
Monter à bord, de toute façon, j'en ferai pas grand chose. On a la tête à l'extérieur quand même.
Exactement.
Oui. Mais parce que j'aime la course, j'aime les grands prix. Et pour moi, ces voitures, c'est comme des sculptures. Donc je pourrais en mettre une chez moi comme une sculpture d'art contemporain.
Est-ce que le son du moteur vous plaît aussi?
Ah bah, évidemment.
Parce que ça...
Évidemment, ça fait partie du truc.
Jean-Michel Labouche. Et maintenant, le beurre qui frit.
Non, pas encore.
Julie Depardieu est persuadée qu'à 70 ans, elle sera...
Grand-mère.
Non.
ne sera plus.
Non. En fait, si, elle sera. Mais que tous les ans, elle s'améliore. Et donc, à 70
Bonifie.
Ans, elle sera au top de quoi?
Bonne actrice.
Souplesse.
Alors, ça peut correspondre à la souplesse.
De sa mémoire, de sa culture?
Non.
C'est du sport, c'est...
C'est une forme de sport, oui.
Non.
Tu l'as dit dans Marie-Claire.
Elle sera au top au lit. Au top au lit.
En 2018.
Exactement.
Sexuellement, donc.
Ah, que je deviendrai beaucoup, peut-être. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça.
Non, vous avez dit,
en 2018.
En même temps, c'est Marie-Claire, c'est pas grave.
Voilà. Non, en 2018, c'est l'interview.
Mais j'en ai pas fait, vous êtes marrant.
D'interview ?
Non.
Bon, alors c'est Marie-Claire qui a repris ça, je ne sais pas. On vous avait dit que j'ai plein de choses encore à découvrir.
Voilà.
Et plus ça va, plus... Non,
j'ai toujours dit que je serais une... que je pense qu'à 70 ans, je serais super. Même qu'on viendra de loin pour me parler. J'ai toujours dit ça, mais d'être un, de devenir un bon coup, peut-être. J'ai dit ça.
Mais, on dit des trucs parfois.
Ouais.
Et puis c'est écrit. Et puis voilà. Voilà.
À quelle occasion Régis Laspalès et Philippe Chevalier ont-ils eu l'occasion de parler ensemble la toute première fois? Quand et où a eu lieu la rencontre?
Aux toilettes.
Non.
Le train pour Pau.
Non.
Dans un...
référence. Non.
Dans un train.
Dans un café, un bistrot.
Alors, c'est un lieu, on va dire, de...
C'est pas le casting du Petit Théâtre de Bouvard.
C'est un événement. Tu peux, oui, tu peux jouer.
Ah bah, dans une émission.
Non.
Au Petit Théâtre de Bouvard.
Non.
Chez Michou.
Non.
C'est pas un resto, c'est pas.
Une expo photo.
C'était à table.
C'était à table.
C'était à table, mais quel genre de. C'était un dîner, mais quel genre de dîner?
Un dîner de protocole.
Non.
Un dîner échangiste.
Un réveillon.
Non. Mais en tout cas, il y a une notion de fête, oui.
Un anniversaire.
Pas loin, vous êtes pas
non,
loin. Un enterrement.
Pas loin.
Pas loin.
Un mariage. Cours Simon.
Mais quoi, c'est l'un de vos copains qui a dit il faut absolument que je te présente Philippe et
Alain. Non, comme ça, ça s'est trouvé comme ça. Mais je faisais même pas de théâtre encore, en fait. Ça s'est trouvé comme ça, et après on s'est retrouvés au cours.
Et vous vous êtes plus tout de suite?
On a écrit notre premier spectacle, voilà.
Mais alors pardon, quand vous êtes retrouvés dans un cours de comédie, vous vous êtes reconnus en disant on s'était vu au mariage
Dédé
Micheline, quoi.
Voilà, c'est ça, Dédé Micheline.
C'est
Dédé Michel. Exactement, vous êtes bien enseigné.
Jacques et Michel, je sais pas.
C'est là qu'on s'est rendu compte. Le mariage de Jacques et Michel.
Julie a dû s'y reprendre à 5 fois pour être satisfaite du résultat.
Coller le nez.
J'aurais mieux fait de me taire.
5 fois.
Faire l'amour. Une couleur.
Non, c'est pas loin de ta vanne. C'est pas loin de ta vanne.
Le nez.
Ouais.
Le nez.
C'est pas une coupe de cheveux, une.
Oui. Pour prendre de la coke.
Non.
Voilà. Non, mais il l'a dit, non?
Ouais, il a dit le nez, mais il sait pas de quoi il s'agit.
Se faire refaire le nez?
Exactement.
Ah, ça, non, mais c'est des mini trucs. J'étais sur la pointe des pieds. Donc
ah, bah oui, non, mais
des fois, vous savez, vous feriez mieux. Enfin, je ferais mieux de me taire. Parce que c'est moi, je l'ai dit pour rigoler.
C'est une interview très sérieuse dans Le Monde dans lequel vous avez dit ça.
Ouais, ouais, parce que moi, je parle, je peux dire tout ce que je pense, comme vous savez.
Il n'y a pas que dans Marie-Claire qu'il y a des conneries, donc c'est dans Le Monde aussi.
Mais que vous ayez envie de faire refaire votre nez et que vous vous sentiez mieux comme ça, très bien. 5 fois, c'est que le chirurgien. C'est pas
vous
bon,
avez
quoi.
Ce genre de choses nous rapproche. On est névrosé, hein.
Ouais.
Donc même si
névrosé, c'est un,
il
c'est un
est exactement presque pareil, mais moi
ça va mieux.
Bah là je m'en fous, là je ne le regarde plus.
Mais il est très bien.
Mais c'est vraiment des, il est
quand des je détails.
Si je vois des photos avant, j'ai vraiment la presque la même tête. Enfin c'est un micromillimètre auquel quand tu as 22 ans,
tu
ne vois que ça et tu te dis tiens je l'enlève, ma vie va changer. Ta vie change pas du tout.
Et le chirurgien a changé ou pas?
Ah bah ça oui.
C'était 5 fois le même.
Non, pas 5 fois le même. Je pense que en plus je parle 5 fois, mais c'est des mini retouches. Voyez,
en tout cas, c'est original cette troisième narine.
C'est pas mal.
Mais de là, ça va faire sur le front.
C'est très joli. C'est très joli.
Voilà. Régis Laspalès, un héros musical. Qui est-ce?
Guy Marchand.
Non.
Ah, quelqu'un qui aime bien.
Ouais.
Oui, un héros.
Je suis pas un héros musical, c'est bizarre un héros.
Quand elle met sur accéléré, ça va vite.
Non, mais héros musical.
Écoutez bien.
Non, mais c'est pas grave.
Pas français.
Sinatra?
Non. Moi, je le sais, mais bon, il me l'a pas dit, mais je l'ai lu. Est-ce que moi aussi je suis chroniqueuse?
C'est un français ou un étranger?
Quel type de musique? Alors ne le dis pas tout de suite.
Français ou étranger?
Ne le dis pas tout de suite parce que.
Réponds-moi.
En fait, c'est étranger. Il y a un match, il y a des points et ils veulent gagner à la fin.
Quel genre de musique?
Est-ce qu'on veut vraiment?
Oh, quel genre de musique? Ça te regarde?
Est-ce que c'est dans la veine des Sinatra, Dean Martin?
Non.
Non, pas du tout.
Est-ce que c'est du zouk? Est-ce que c'est Francky Vincent?
Non.
C'est génial, Francky Vincent.
C'est vrai,
c'est du blues.
Il chante encore, il sort des albums.
Non, malheureusement, non.
Il est mort.
C'est du classique?
Bien.
Bowie.
Jazz.
Exactement.
Allez.
Bravo.
C'est qui?
David Bowie. Bowie. On et s'écoute pas, les gars. Et Julie, la première, a dit bravo.
Non,
elle
mais
le
bon,
savait.
D'accord, mais je ne l'ai pas
savais.
Dit.
Tu le savais. Tu le savais. David Bowie, qu'est-ce qui vous plaît dans sa musique?
Il y a des millions de gens. Hein,
Mais vous étiez deuxième, je crois.
Oui, j'étais deuxième. J'ai toujours été un grand admirateur. Et c'était un grand moment quand vous l'aviez reçu.
J'ai eu cette chance, ouais.
Ataratata, ça c'était des grands moments.
J'ai eu cette chance. Qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage de Bowie? C'est que justement il était aussi comédien et qu'il y avait presque différents personnages par album.
C'est un génie quand même de la musique, sa voix, sa créativité. Et puis c'est pour moi un artiste complet, puisqu'il a théâtralisé le rock, il a aussi fait l'acteur, il a aussi fait il a touché à toutes les formes d'art assez brillamment quand même. Et je trouve qu'il y a, voilà, il y a plus de gens, il y a plus de gens comme ça.
Capable de toucher à tous les arts,
qui rebondissent sur le succès en refaisant autre chose et
en se mettant en danger même.
Oui, et en continuant de fasciner les gens.
Bah Hitler était peintre et après...
Parlons de...
Alors, tu n'aimes pas l'histoire, n'en dégoûte pas les autres.
Hein. Non, c'est la peinture qu'il aime
le
pas.
Le gars est fermé.
Parlons de Frick Frack, cette pièce donc d'Edouard Bourdet, mise en scène par Michel Faux au Théâtre de Paris, avec vous deux, Régis Laspalès et Julie Depardieu, et également Michel Faux. Emmeline Bayard, sans vouloir vexer les autres, sont les quatre rôles-titres, les rôles principaux, mais il y a quand même du monde. Sur scène, vous êtes une dizaine. Oui, il y a Georges Bécaud également, Fabrice Kals, Yanis Eziadi, Antoine Caen, Audrey Langle et Roland Menoux. L'histoire d'une bijouterie où vous travaillez, Marcel.
Régis, Marcel.
Oui, enfin, ouais,
c'est moi, Marcel.
Oui, c'est pas Julie, oui, on l'a compris.
Marcel, on va voir, c'est Marcel féminin, on va le voir tout à l'heure.
Et vous commencez à fricoter avec René, joué par Emeline Bayard, qui est la fille du patron.
Emeline Bayard, oui, qui a joué Bécassine dernièrement.
Ouais, qui était super.
Au cinéma. C'est elle qui en pince pour moi, elle aimerait bien que je reste, prendre la suite.
La relève.
De la bijouterie, mais moi, je suis très épris de Mademoiselle Loulou.
Jouée par Julie Depardieu.
Voilà, avec qui on passe les dimanches à la campagne, à pique-niquer, avec ses amis, qui sont des truands.
Donc il y a Jo, les
bras coupés. Les bras coupés, c'est interprété par Michel
Faux. Jo, les bras coupés. Elle, c'est une prostituée, mais moi, je vois rien du tout. Non. Je m'en rends absolument pas compte. Je suis un grand romantique. C'est la femme idéale pour moi.
Et on ne sait pas si elle se sert de vous pour elle découvre que vous travaillez dans une bijouterie et puis là elle se dit a son Tintin, son Mac qui est en prison.
Ouais, j'ai mon mec en tôle quoi, voilà. Donc je dois trouver un petit peu d'argent. Quoi.
C'est ça. Il y a quelques factures à payer.
Cette personne agréable.
Comme par hasard.
Et je travaille dans une bijouterie. Comme par hasard. Qui travaille dans une bijouterie, là, ça m'intéresse. Hein.
Ouais, ça m'intéresse beaucoup.
Ça m'intéresse beaucoup.
Alors évidemment, je l'invite à dîner un soir. Elle dit oui, pourquoi pas. Évidemment, elle m'entretient dans le truc, dans mon délire.
Dans l'espoir.
Voilà, pour avoir aussi des renseignements, évidemment.
Bien sûr.
Et puis il va y avoir, alors on va pas dévoiler tous les retournements de situation, bien que Frick Frack, certains ont déjà vu le film, connaissent l'histoire, mais il y a des scènes cultes dans Frick Frack, notamment celle où dans le bar, celle où vous êtes bourré aussi à la, alors je sais pas quoi, c'est de l'eau de vie
l'agneau. Non, ils sont chez moi dans la
chambre. Ça c'est dans la chambre de l'hôtel.
Avec Michel Faux, tous les deux bourrés, qui tenaient en équilibre parce que vous appuyer l'un contre l'autre, ça, c'est des moments qu'on a hâte d'applaudir au théâtre. C'est dur à jouer d'ailleurs, le mec bourré.
Ouais, et c'est dur à mettre au point, à trouver la gestuelle, mais bon, voilà, on est en train de.
Il y a un entraînement quand même, il y a des choses.
On ne boit pas en scène.
Ça sera au théâtre de Paris, mais ça a été un film aussi.
Ça a été un film en 1939, forcément. Alors je vais invoquer des monstres sacrés du cinéma. C'est Arletty, c'est Fernandel, c'est Michel Simon. On se replonge dans les aventures canailles de Loulou avec ce petit extrait.
Je disais que, n'est-ce pas, après le dîner, je propose le cinéma.
Oh non, allons voir la boxe au central ou le catch à Wagram.
Vous aimez ça, vous, la boxe?
Pas vous?
Oui, moi, j'aime pas le cinéma, il y a trop de films de gangsters.
Ça choque, monsieur?
Mais non, mais c'est Chiquet et compagnie. C'est vrai, ça, ils enfoncent la lourde d'un coup dans l'os, ils mettent les gars d'un coup de poigne, ils ouvrent les coffres en moins de deux. Ça se passe pas comme ça dans la vie.
Tu ne sais, toi, comment que ça se passe dans la vie?
Plutôt.
Vous connaissez les vrais gangsters, vous? Ça, ce sont des trucs passionnants, ça.
Mais ils bluffent, le croyez pas. Tais-toi et pocheté.
Donc il joue Joe les bras courts, coupés. Michel Simon.
Parce qu'il est feignant.
Non mais c'est ça, donc j'essaie de retrouver les personnages.
Fernandel étonnamment joue le Parisien alors que c'est le méridional qui a un accent, mais il joue Marcel.
Ouais.
Et Arletty joue donc Loulou. J'imagine que vous avez vu le film ou en tout cas
il ouais, y a des vu, souvenirs hein, de
par le passé quoi en tout cas.
Moi je l'avais jamais vu.
C'est vrai.
Et j'en ai regardé un petit bout, mais vous voyez, des fois on fait des choses. J'ai trouvé le moyen que j'ai pas continué.
Ouais, je comprends.
Peut-être
de crainte quoi.
Voilà, je me suis dit, bah, j'aime beaucoup Arletty, bien sûr, mais je me suis dit, comme je ne sais imiter personne, il y a des gens qui disent, moi je ne sais pas le faire, donc je vais pas me foutre une pression, je vais le faire selon ce que je suis. Hein.
Et vous, Régis?
Je l'ai vu il y a longtemps, je veux pas être influencé, mais les dialogues. Je pense que la pièce est plus forte. Les dialogues de la pièce sont plus forts. Parce que là, ils ont été un petit peu modifiés.
Et il y avait beaucoup d'improvisation, apparemment. Michel Simon improvisait beaucoup. Ce qui a fait que Fernandel et lui se sont pas du tout entendus sur le tournage. C'est Arletty qui raconte ça dans des anecdotes. Elle disait, ils n'ont plus retourné ensemble tellement l'entente a été désastreuse.
Alors, des deux, celui que j'imaginerais le plus dans l'improvisation, c'est Fernandel.
Et ben non,
et c'était pas le cas. C'était Michel Simon qui improvisait.
Ouais.
Et Fernandel qui le prenait mal.
C'est ça.
D'accord. Vous avez fait déjà des filages, vous en êtes à quel stade?
On est en cours.
Tous les jours,
non? Mais pas le vrai filage va commencer.
Il serait temps. Hein.
Tout à l'heure. Oui, mais on a fait des petits bouts, vous savez.
C'est d'accord. Quoi le. Ah oui, c'est ça pas le filage en intégralité.
Mardi.
Lundi soir, mardi, couturière.
Mardi, ça commence. Ouais, lundi soir, couturière. Ouais. Couturière pour les amis.
Ah, on est sous pression.
Et ceux qui ont travaillé, voilà. Notamment au décor. Et,
bien sûr, magnifique.
Je pense aux frères de Michel Faux qui s'occupent du décor. Il y a 4-5 changements de décor.
Oui, il y a une trentaine de costumes, 4 décors. Alors,
des lumières superbes.
J'espère que ça va être drôle, mais en tout cas, ça va être beau.
C'est beau, voilà.
Non, ça va être drôle.
Michel Faux est un esthète.
Ah oui.
C'est vrai. Tout ce qu'il fait est toutes déjà très beau à regarder.
Comment, c'est lui qui vous a contacté, comment ça se passe? Comment on monte une pièce de théâtre? C'est-à-dire que c'est autour d'un verre, on discute, j'aimerais bien faire fric-frac avec vous, comment ça s'est passé, Régis?
Il m'a dit, je voudrais monter fric-frac avec...
Vous connaissiez?
Julie, j'étais allé le voir dans ses spectacles, il est venu voir ma dernière pièce avec Huster, la pièce de Laurent Ruquier, et puis voilà, il me dit, je voudrais monter ça avec toi, avec Julie, et... Fric-frac, je me suis dit, oui, au cours Simon, je travaillais fric-frac, alors ça m'a beaucoup plu.
Et puis, vous jouiez déjà Marcel au cours Simon?
Non, je crois que je faisais Michel Loulou. Simon. Non, je faisais pas Loulou.
Jo. Jo.
Ouais, et donc évidemment, tout de suite, le projet m'a emballé.
Il dit de vous, Michel Simon, dans une interview, en parlant de vous, Régis Laspalès, il a un côté inquiétant et il a inventé un phrasé qui n'appartient qu'à lui. J'aime les acteurs dont on reconnaît la voix.
Oui, je ne l'ai pas inventé, c'est ma voix. Tous les acteurs utilisent ce qu'ils sont. Et
sauf que c'est quand même assez rare d'avoir une
vraie. Parce que c'est vrai qu'on me dit souvent, vous avez la même voix.
Ouais. C'est vrai, hein. Mais ouais.
C'est bien observé. Hein.
Les gens dans la rue me disent, oh, mais vous parlez pareil. Bah oui, on change pas sa voix, on l'utilise.
Ils pensent que vous jouez un rôle quand vous ralentissez le débit.
Si dans la vie on prenait une voix spéciale, ce serait fatigant. Hein.
Ah mais Michel aussi, il aime les acteurs qui chantent. Par exemple, Chantal Latsou, c'est vraiment une femme qui dit pas le texte comme les autres. Elle a un style bien à elle.
Bah, elle dit pas le texte. C'est ça qui est assez fou.
Non mais c'est ça qu'il aime.
Et à propos du texte justement. Pardon. Oui.
Oui. Parce que la première, on s'est vu après. Bon. Je lui dis, dans tes pièces, je trouve que les acteurs ont une façon de parler qui est un petit peu bizarre. C'est pas... Ah, il me dit, parce que toi, tu trouves que t'as une façon bizarre.
Non,
j'ai
pas
su quoi répondre, évidemment.
Il y a ce texte que nous avons lu, évidemment, pour préparer cette émission, qui est d'une densité, d'une difficulté, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'argot, mais surtout il y a beaucoup, je trouve, beaucoup de textes. Alors oui, il y a 10 personnages, mais pour vous quatre, j'ai le sentiment que la mémoire a intérêt à être efficace. Julie, vous avez peur de ça? Vous travaillez particulièrement la mémoire là-dessus?
Ouais, hein, quand même, mais le trou peut toujours arriver, mais si vous voulez, avec l'argot, c'est pas des vers, tu peux toujours savoir à peu près, même si t'as un mini trou, tu peux quand même essayer de remplacer par un langage... voyez,
c'est pas évident
parce que t'as vraiment des toutes petites phrases, des toutes petits mots, qui est presque le même que juste avant, c'est compliqué.
Mais vous pouvez même pas improviser ni changer, parce qu'il y a des passages où vous, Loulou, vous parlez, Julie, avec l'argot, que Marcel joue celui qui ne comprend pas d'ailleurs la phrase que vous dites, donc il faut traduire, expliquer la phrase que vous venez de faire, vous avez intérêt à être dans les clous, non?
Bien sûr, Régis. Mais on l'est. Hein.
Oui, il faudra l'être.
On le sera.
Julie, vous avez 6 jours.
Parce que c'est aussi ça l'intérêt de la pièce, c'est qu'il y a cet argot et puis un langage un peu plus châtié parfois, et c'est ces deux univers finalement qui se télescopent, parce que Marcel, tout d'un coup, vit la grande vie, il s'encanaille un peu et il a l'impression de devenir un peu pas un loubard, mais bon, c'est un personnage qui évolue quand même dans la pièce.
Oui, en fait, il est tellement épris de Loulou que finalement, bon, il apprend que ce sont des truands, mais finalement, allez, il se fait une raison très vite.
D'autant
d'ailleurs,
qu'il
demande s'ils n'ont pas un boulot pour lui.
Il cherche du travail.
Il ne sait pas encore. Il ne savait pas.
Il ne sait pas encore, mais il les trouve quand même très sympathiques.
Mais il y a toute une.
Il se sent bien avec eux, alors que dans son bureau, il ne se sent plus bien du tout.
Il est. C'est, je crois, le personnage de Michel Faux qui explique ce qu'est l'honnêteté ou la malhonnêteté. Et c'est vrai que dans son explication, d'un coup, on redescend tous un tout petit peu dans l'estime que nous avions de soi en disant je suis honnête, et là ça redescend parce qu'il dit, on cherche à piquer un truc un jour.
Il me dit, tu sais, les gens honnêtes, ça n'existe pas. Mm. Ben, il me dit, je lui dis, ah bon? Ben, il me dit, non. Il me dit, t'es honnête, toi? Je lui dis, bah, je crois, oui. Mm. Il me dit, t'es jamais monté en première dans le métro avec un ticket de seconde? Ah ben, je dis, quand il y a la foule. Il me dit, tu vois, t'es un voleur. Ben, il me dit, t'as la radio chez toi? Je dis, oui. Il me dit, tu...
La déclare, comme
tu
la redevance.
Tu l'as déclaré? Ben, je dis, non, je l'écoute jamais, j'aime pas ça. Ben, il me dit, t'es un voleur. On est tous des voleurs.
Non, et puis il y a cette notion, on retrouve presque les braqueurs qui n'existent peut-être plus maintenant, mais les braqueurs chics qui ont une morale en tout cas, et qui ont une parole et qui ont une déontologie.
Qui disent qu'ils en ont.
Mais en l'occurrence...
Ça, c'est un peu une légende.
Tu parles, il dit, je vole pas un mec que je connais, il lui vient de lui piquer son portefeuille.
Ben, oui, mais il lui rend.
Ouais. Ah oui,
il lui rend justement parce que d'un coup ça devient son pote.
C'est parce qu'il dit, c'était pas encore mon pote quand je lui ai piqué.
J'adore cette voix.
C'est ça, mais c'est ça, voilà. C'est exactement ça. Ça sort à partir du 11 septembre au Théâtre de Paris, Fric Frac, monté par Michel Faux avec Julie Depardieu et Régis Laspalès et Michel Faux également. Mais vous êtes sûr, Tom, ça va être un succès, vous êtes...
Mais qu'est-ce qu'il dit, l'Égyptien?
Persuadé.
Il a un souci, Cléopâtre? Il a pris un coup de chaud dans son sarcophage? Non, mais ça va pas ou quoi?
Mais c'est du racisme ou quoi?
T'es beaucoup trop jeune pour dire des trucs comme ça, Tom, ta vie.
Du racisme, j'arrivais pas bien à lire ce que m'avait écrit Daniel et puis.
C'est pas du racisme, mais je vais t'éclater surtout.
Ah oui? D'accord, ok, c'est parti. Pourquoi ça va être un carton? Ça me paraît évident. Parce que les deux zigotos, là, ils ont du talent. Et du talent à revendre. Si c'était des bagnoles, ça serait des Mercedes. Ça se conduit avec un doigt. Les yeux fermés, une main dans l'eau. L'histoire de la pièce, elle est toute simple. C'est universel. Ça cause à tout le monde. Hein? Il y a Julie. Dit Loulou. Depuis que votre Joe s'est fait pincer, ça fait un vide. Faut dire qu'il a fait les 400 coups. Il y a un moment, les poulets, ils en ont eu marre. De ses magouilles, ils l'ont mis au placard pour qu'il cogite. Pas de chance pour cette canaille de Joe. Pendant qu'il enfile les perles en zonzon, il y en a d'autres qui profitent de l'air pur. Et je vise personne, je suis pas une balance. Mais faudrait que les juges, ils aillent voir du côté de Levallois. Il paraît que ça brasse plus de pognon qu'à la Banque de France. On dit merci qui? On dit merci Patrick et Isabelle. Bref. Revenons à l'histoire de la pièce. Revenons à l'histoire de la pièce. Quand t'es en zonzon, t'as des besoins. Alors Loulou, elle va aller voir le Marcel. Le Marcel, c'est Laspalès. Et comme il est amoureux, ça le rend naïf. Et naïf à un peu con, il n'y a qu'un pas. Et je vais le franchir sans trembler du petit doigt, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il se laisse embarquer dans une sale histoire de fric-frac. Le Marcel, on lui fait croire des trucs. Alors lui, quand il croit des trucs, il fonce. Il y va comme un sanglier dans la forêt, tête baissée.
Et comme il est un peu con, au final, on sert un peu lui. Mais il n'est pas seul dans ce cas-là, le Marcel. Il y a des ministres de l'écologie qui s'en sont rendus compte il n'y a pas longtemps. Ushuaïa, il a bien vu qu'il s'était fait embobiner par Jupiter. Alors pour lui faire payer, il est allé voir vider son sac chez les journaleux. Si Marcel, d'ailleurs, il veut jouer un bon tour à Loulou, qui hésite pas, je peux demander à une opératrice de le mettre en relation avec de Morans. Ça coûte pas cher et ça soulage. Hein, pareil que c'est lui qui le remplace le curé pour les confidences maintenant. Pour l'époque, bref. Moi, quand j'étais gamin, on la jouait franc jeu. Hein, on posait les cartes sur la table, et pas que les cartes d'ailleurs. Aujourd'hui, il y en a toujours un qui garde un as dans sa manche. Alors après, ça va baver dans le lot des copains. Si t'es pas d'accord, tu lui dis. Au pire, ça castagne un peu, il y a du grabuge, mais au moins c'est transparent, c'est limpide. Alors après, je dis ça, moi j'aime bien votre histoire et je suis content que vous soyez là. On n'est pas bien, hein, entre nous, à la fraîche.
La fraîche.
Les contractés du gland, hein. Et je fais aussi dans l'hommage. Bref, bonne émission les artistes et à l'occasion, n'hésitez pas à passer à la maison du côté de Ménilmontant. On sera une belote en attendant que Joe sorte du placard. Allez, bisous.
Merci. Merci. La bande originale,
Maggie, sur France Inter. C'est Tintin qui est au placard, c'est Tintin qui est au placard et c'est Loulou qui veut lui rembourser ses dettes.
Amener un peu d'oseille, quoi.
C'est ça.
De d'oseille.
Elle, de non, elle, elle aussi, il y a une espèce de comportement de la fiancée, de la maîtresse ou de la femme qui est, je vais quand même pas laisser mon mec en prison.
Mon homme à l'ordinaire, hein,
il va pas bouffer,
pas.
Voilà, il va pas becter de l'ordinaire.
Ah non, je vais pas laisser becter mon homme à l'ordinaire, hein, c'est des choses qui se font pas. Donc elle lui amène pour cantiner, ce qu'on appelle, ouais, je crois quand ouais. t'es en prison tu cantines, bah, elle est obsédée par le fait qu'il mange, donc ça s'appelle des jetés. Il doit 3 jetés à la cantine et ils veulent plus y faire crédit.
Alors, le, Tom, et tout à l'heure, on en reparlera de l'argot de présent dans cette pièce. C'est un exercice particulier aussi de. Alors, quelques mots sont encore utilisés. Becté, ça surprend personne. Le dab, là.
Oh, le dab à la môme. Moi, je savais, hein.
Le daron.
Moi, on. Bref.
Le dab. Ah oui.
Le dab,
le dab, c'est le père.
Ça peut
ouais.
dire la même
ouais.
chose.
Ouais. Non, maintenant, on a le dab, c'est le geste que fait Pogba quand il marque un but. Ah. Mais c'est vrai qu'on dit plutôt le daron. Le daron dans l'argot. Enfin, il y a quelques mots comme ça.
Il y a ce fameux mot.
Ah oui, en ch'tibé.
En ch'tibé, ouais.
Qui revient assez souvent.
Qui est entubé?
Non, ça fait se faire attraper, quoi.
Mais c'est enfin, joli quand même, c'est un joli.
Oui, j'étais pas loin.
Se faire, oui.
Ouais, se faire avoir.
Ouais, se faire avoir. Mais on va rassurer ceux qui pensent ne pas connaître tous les mots d'argot. Justement, la pièce joue là-dessus et sur ce qu'a expliqué Leïla, des explications faites avec les deux mondes et qui s'expliquent même, enfin, lorsqu'ils se comprennent ou lorsqu'ils se comprennent pas. C'est-à-dire, on peut pas passer à côté de certaines répliques. On peut le dire ça.
Ça, c'est sûr. On a entendu les endos dans l'extrait aussi.
Ouais, les endos.
Oui.
Les épaules.
Ouais. C'est la première fois que vous jouez ensemble au théâtre, comme au cinéma, comme à la télévision. Vous vous étiez jamais rencontrés.
Si.
On s'est rencontrés
au mariage de Denise et
Ginette.
On s'est déjà rencontrés, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Alors j'en suis évidemment ravi.
On se faisait des
ravis.
Signes, on se rencontrait.
Bonjour, mademoiselle.
Voilà. Vous étiez polis, quoi.
J'aime beaucoup ce que vous faites.
On se disait bonjour, vraiment.
Ouais. Mais tiens, vous avez la même voix.
Voilà.
Mais dans ces cas-là, chacun. Chacun se fait une idée de l'autre ou a une image publique en tout cas de l'autre. Et là, vous apprenez à vous connaître sans forcément dire d'ailleurs s'il y a eu. Je voudrais savoir s'il y a eu un changement entre ce que vous pensiez connaître de Julie Depardieu et ce que vous connaissez maintenant, Régis.
Pas trop, non.
Non, non
elle est tellement naturelle, toujours.
Malheureusement, je dis tout. Hein. Je devrais pas.
Ça vous joue des tours?
Bah oui, parce qu'il y a un moment, il faut réfléchir un tout petit peu, mais.
Non, mais c'est bien, mais on vous aime parce que
voilà,
vous êtes sans filtre.
Ça, hein.
C'est peut-être la raison
on
pour
va
la...
pas se changer.
C'est peut-être la raison pour laquelle Michel Faux a pensé à vous pour
peut-être,
le rôle aussi.
Mais c'est vrai que quand il m'a dit oh, j'ai un truc à te proposer, c'est avec Régis, de toute façon, parce qu'il pensait à toi depuis longtemps, puisque moi, Michel, je le connais depuis un certain temps. Donc il m'a toujours dit je veux faire un truc avec Régis et il trouve la pièce et j'ai dit ah bon t'es sûr ah d'accord et franchement j'ai dit ouais c'est une enfin moi il y a rien qui a changé on s'est toujours rencontrés comme ça et franchement je n'ai pas d'autre idée que de lui maintenant que je travaille avec.
Et alors dans votre manière de jouer tout à l'heure Leïla évoquait que Michel Simon était l'improvisateur des deux face à Fernandel qui aimait au contraire rester bien collé au texte.
On aime être collés tous les deux.
Ouais ouais.
C'est la glue.
Je crois que
on essaie de faire par respect pour l'autre aussi.
Quand on a un bon scénario, un bon script, une bonne pièce comme ça, une écriture comme ça, il n'est pas nécessaire d'improviser forcément.
Bah non, puis là c'est pas le on nous le demande pas du tout hein.
Non.
Ah bah non.
Et puis, ça n'a pas, il n'y a pas à sauver la pièce en, par des impros ou parce qu'on aurait un texte un peu faible, parce que c'est ça souvent. Le...
Et puis c'est une comédie très rythmée, même s'il y a des silences qui sont faits pour rire,
oui,
d'ailleurs,
non, mais là,
qui sont tellement... des effets dans, oui. dans le jeu.
Oui, absolument, c'est tellement parfaitement écrit, il faut respecter le texte.
Que vous demande Michel Faux, d'ailleurs, quels sont les à part de respecter le texte, mais quelles sont les indications supplémentaires qu'il vous a données pour soit moderniser Fric Frac ou l'actualiser?
Il aime bien, les gens qui ont une nature un peu particulière et qui se laissent justement aller à ça. C'est, il n'est pas du tout, il vous brime pas du tout. Au contraire, il vous met en valeur. Et il est très cool hein, dans sa façon de.
Je dis moderniser, mais les costumes restent entre guillemets d'époque.
Oui,
qu'il respecte beaucoup. Du coup, c'est très moderne. Il a un style, Michel Faux, quand même.
Oui.
C'est très beau. Et donc, puisqu'il respecte à fond même l'affiche, hein, il a repris l'affiche de la création. Oui, c'est que.
Du film.
Oui, et en plus, il respecte à fond les didascalies, il respecte tout.
Les indications données aux comédiens, qui sont dans le texte d'ailleurs,
oui.
c'est écrit sur le même ton.
Donc des fois, il te dit, il y a marqué heureuse là. C'est tout. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très, très drôle.
Oui, il ne change pas, il ne change rien, mais sauf que. Il a quand même son univers, parce que les décors ne sont pas tout à fait réalistes.
Non.
Et les costumes, c'est vrai qu'ils seront d'époque, sauf pour les couleurs.
C'est quoi? C'est Paris 1930?
C'est flashy.
Ça va être très coloré.
Ouais. C'est très flashy, ouais.
D'accord.
C'est sa petite touche surréaliste.
Ce qu'il avait déjà fait dans les années 70 au Bouffe Parisien, aux côtés de Mélanie Douté. À partir du 11 septembre prochain, ça, c'est Fric Frac qui sera à l'affiche de ce Théâtre de Paris. On va en reparler dans quelques instants avec Julie Depardieu et Régis Laspalès qui sont nos invités. Mais voici l'humeur de Guillaume Auguis.
Salut les amis.
Salut.
Je sais pas si vous vous rappelez l'année passée, un jour on avait parlé d'écologie ici avec c'était un monsieur, je crois, un spécialiste ou c'était une dame, je sais plus, elle était chauve, elle avait une parka. Vous voyez pas, à ce propos, vous avez lu le manifeste des 200 personnalités culturelles et scientifiques qui appellent à sauver la planète?
Ouais.
Okay. Me dire pourquoi personne ne demande jamais à moi de signer ce genre de truc? C'était pareil avec Catherine Deneuve quand elle réclamait le droit de se faire frotter. Et je dis pas que j'aurais signé entre parenthèses, parce que honnêtement, les frotteurs, c'est pas mes déviants sexuels favoris. Je préfère les lécheurs de bas de contention. Je dis juste, Juliette Binoche, elle veut dénoncer le manque d'implication politique dans le drame environnemental. Très bien, c'est légitime, bravo Juliette, mais qu'est-ce que ça lui coûte de prendre son téléphone et me dire, Ernesto, je fais un petit manifeste, t'en es pas. C'est la moindre des politesses, quoi. C'est vrai. Je suis sur vibreur, en plus. Bien sûr qu'elle a mon numéro. C'est moi qui la dépanne quand elle est en galère de chicorée. Je sais. Moi, j'ai vu les 200 signataires. En plus, il y a Isabelle Adjani, David Cronenberg, Patty Smith, Anish Kapoor, Pedro Almodovar. Ça, c'est pas la crème non plus, honnêtement. Franchement, David Cronenberg, qu'est-ce qu'il a fait depuis la mouche à part la pub CTLM? Rien. C'est que des branleurs dans ce manifeste. Il y a même Charles Aznavour, quoi. Qu'est-ce que ça peut lui foutre l'avenir de la planète? Enfin, déjà, le concept d'avenir.
Non,
je trouve que c'est un risque de le faire signer, Charles Aznavour. Tu sais que le temps que le mail soit envoyé au monde, que le journal parte à la rotative, qu'il soit distribué chez les kiosques, d'un moment à l'autre, il peut. Il y a Jude Law aussi, il y a Ethan Hawke, Alain Delon, lui va envoyer un message d'espoir. Vous avez vu sa dernière interview? Même le papier glacé s'est suicidé. Franchement, le journaliste est devenu apiculteur. Vraiment, de toute façon, les acteurs, c'est pas des gens de confiance, ces acteurs. Je rappelle quand même que c'est les acteurs qui ont interprété le film Les Visiteurs en Amérique. Ils ont fait beaucoup de mal. Ces gens, beaucoup de mal. Et pourtant, je suis d'accord. Le manifeste, il est nécessaire. Bien sûr, l'urgence, elle est absolue en matière de climat. La déforestation tue des orang-outans. Ça a chialé. On a la sixième extinction massive qui décime des quantités invraisemblables d'espèces animales. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant d'espèces animales? Ça c'est un autre débat. Moi je dis oui, mais j'en parlais avec François Durigy ce matin dans les toilettes femmes de France Inter, et il me disait c'est vrai que si on gardait par exemple trois formes d'insectes, trois formes de grands singes, trois formes d'oiseaux migrateurs, ce serait quand même vachement plus simple à apprendre pour les enfants. Il me dit ça, il est impliqué. Moi je le dis parce que je suis devenu végétarien, je sais, je suis impliqué dans l'environnement. J'en ai plein le cul, honnêtement, j'en peux plus. Je craque sur le plan physico psychologique vraiment. Cette nuit j'ai rêvé qu'un bœuf charolais me disait vas-y, prends-moi grosse fourchette. Vraiment, mais je tiens bon. J'aurais pu être dans le manifeste, honnêtement. Le seul. En fait, le seul truc qui me rassure.
Oh, c'est l'image.
Le seul truc qui me rassure dans ce manifeste, c'est qu'il n'y a aucun autre membre de l'équipe qui a signé, ni Nagui, ni Tom, ni Daniel, ni Leïla. Bon, Leïla, je le savais parce que je l'avais vu rouler exprès sur des grenouilles avec la humeur de Nagui. Mais je savais que l'environnement, c'était pas son délire et tout. Mais Daniel Morin, je sais que ça le préoccupe, le réchauffement climatique. Je veux dire, il a survécu à cette canicule-ci, mais la suivante. Donc, je suis pas le seul que Julie était snobé, mais quand même, ça prouve quand même que j'ai pas encore percé dans le milieu. C'est pas que cette chronique, ça va changer. Allez, bonne émission, les amis.
Merci. Au théâtre de Paris avec Julie Depardieu, Emeline Bayard, Régis Aspalès et Michel Faux, entre autres. La pièce d'Edouard Bourdet, c'est Fric Frac à partir de mardi prochain. Nous allons évoquer justement en musique, on parlait de David Bowie tout à l'heure, on va le retrouver dans la bande originale de Julie Depardieu et Régis Aspalès. Commençons par Julie, vous écoutiez fin des années 70.
Aznavour. Là, j'ai des frissons directs.
Ça, c'est un péché mignon.
J'adore.
Vous avez pu lui dire ou pas?
Mais oui, je lui ai dit, je l'ai rencontré. Hein. J'ai dit, t'étais mon idole.
Il est adorable.
Mais ouais. Et j'avais son 45 tours, tu vois, je devais avoir 6-7 ans. Il disait, moi, je vais me marier avec lui.
Vous aviez la dent de requin qu'il avait ou pas?
Non. Hein, non. Ouais, mais je me souviens sur le 45 tours. Ouais. Il était beau. Ouais. C'était une émotion.
Sympa de parler au passé.
Non, mais il était beau sur le 45 tours, il avait 25 ans.
C'est ça. On est dans les années 70. Vous êtes née en 73, Julie, ouais. Pendant le tournage des Valseuses. Hey. Donc, ça, à chaque fois qu'on doit convoquer les Valseuses, nécessairement, ça doit être un peu particulier pour vous.
Mais convoquer quoi?
Quand on l'évoque. Quand on l'évoque.
Ah, qu'on me l'évoque. Bah non, mais j'ai pas de souvenir.
Non, mais pas vous. Mais
je suis née donc en clinique.
Et lui, il est en train de faire. J'essaie de faire quoi. Convoquer, c'était français.
Oui, c'est français.
Je n'ai pas compris la question. Non,
mais elle dit chaque fois que l'on parle des Valseuses.
Qu'on m'évoque.
Ouais, ou qu'on convoque.
Qu'on convoque. Ouais, bah je vous
dis. Faites un effort, Julie.
Non, mais pardon, mais j'ai pas de souvenir.
Alors en argot, je sais pas ce que ça donnerait, mais.
Je me souviens qu'il faisait très chaud. Enfin, je me souviens parce qu'on me l'a dit que j'étais malade en naissance, sympa, et que. Je pleurais. Et donc mon père, qui devait avoir autre chose à faire, disait « Oh là là, elle fait du bruit celle-là »
Non, mais c'est amusant de penser que l'un des comédiens principaux des Valseuses, au moment où il y a toutes les scènes les plus trash, devient papa.
Et en plus, ma marraine, évidemment pas à l'église, ça a été Jeanne Moreau, parce qu'elle était là. Elle était là quand je suis née, donc ils étaient amis et...
Ah ouais, c'est pas rien.
Non,
c'est pas rien. Et alors si on revient, on décline un peu l'enfance. Souvent dans les interviews, vous dites, Julie, j'aurais préféré que mon père soit autre chose que comédien. Souvent c'est charcutier. Je sais pas pourquoi charcutier.
Ouais. Bah parce que quand t'es enfant, c'est sûr.
T'es pour exciter Guillermo.
J'aurais bien aimé, oui, parce qu'il a une grande tendresse pour la viande, il s'y connaît à fond. Je me dis, ça m'aurait peut-être fait moins de.
Bah viticulteur, ça va.
Voilà. Mais à l'époque, quand j'ai dit charcutier, je sais pas, il y a longtemps.
Mais c'était surtout pour vous, parce que finalement, c'est quoi le plus difficile, c'est d'être.
C'est les autres. Hein.
Ouais.
C'est les autres. T'arrives dans une pièce, t'as. Psss, psss,
ouais,
voilà. Et ça commence à l'école.
Regarde Canal encrypté.
Et ça commence sur la.
Attends, j'ai même pas compris quoi.
Il regarde Canal encrypté.
Non mais donc ça commence.
C'est une vieille vanne puisque ça ne marche plus comme
t'es
ça.
T'es très jeune.
Ils l'ont remis. Ouais.
Et comment on s'affranchit de ça, Julie?
On s'affranchit, on s'y fait. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il y a toujours une petite rumeur ou voilà. Donc après on s'y fait. On se fait à tout. Hein.
Non.
Régis Aspalès, vous écoutiez dans les années 70, fin années 70.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels.
Après, écoutez Gainsbourg, quelles images vous viennent quelles...
C'est quand même la symphonie du moment.
Ouais, totalement.
Moi j'entends
non,
ça.
Non mais il l'a dit.
Oui,
il le disait, il n'y a pas de problème. Ouais.
Ça c'est un peu toute ma vie d'étudiant. J'étais un grand fan de Gainsbourg, j'écoutais tout le temps, toute ma période étudiant, après aux Beaux-Arts... Après, quand j'étais un peu connu...
Autre point commun avec Gainsbourg aussi, les Beaux-Arts.
Oui, hein, ça. Après, quand j'étais un peu connu... Je l'ai croisé dans 2-3 émissions, mais comme je suis timide, j'ai pas osé aller le voir. Il était un peu intimidant quand même.
Mais il était lui-même timide aussi.
Oui, alors bon, alors, en fait, je l'ai jamais rencontré, hélas.
Et vous, dans ces années-là, c'est l'inscription au cours Simon. Enfin, vous commencez au cours Simon.
Oui, mais... après, voilà, mais... une fois le diplôme des Beaux-Arts en poche, on est au mois de juillet et au mois d'octobre, je m'inscris au cours Simon.
Et pourquoi vous vous inscrivez au cours Simon ?
Bah parce que je me dis, tiens, je vais encore essayer ce truc-là pour voir.
Pourquoi encore essayer ce truc-là ?
Parce que j'avais déjà fait les arts plastiques.
Ouais, t'étais jeune, quoi, ils se cherchent. Enfin, c'est...
Oui, mais les parents, à
on
l'époque...
On me disait, il y a des amis pas, qui me disaient, tu devrais quand même faire un peu le comédien, voir. Et ça me... C'est pas un truc que je voulais faire depuis tout jeune.
Vous faisiez rire, vos copains ?
Oui. Et donc, j'ai dit, bon, et là, ça a été la révélation. Voilà, ça m'a plu, j'ai tout de suite été. C'était mon truc.
Et vous étiez bon ?
Où ça ?
Sur scène. Parce que comment on se revoit ?
Comment on se juge ?
Ouais, à ses débuts, il y a toujours.
J'étais très timide. Puis, bon, au bout d'un moment, je me suis lancé. Ouais. Et alors, les gens rigolaient. Alors, je comprenais pas pourquoi. Et puis la directrice
ça marche tout... encore hein,
ça marche, ouais.
Oui la directrice m'avait dit que j'étais sinistre et alors après ça m'avait traumatisé évidemment j'osais plus bouger et puis un jour je faisais rire tout le cours alors elle me reconvoque le lendemain elle me dit Velas Palès vous êtes un comique ah bon alors en fait ça m'a plu de faire rire après j'ai compris pourquoi je faisais rire je l'ai travaillé puis voilà j'y ai pris goût.
Petite allusion au titre de Gainsbourg choisi, Initials Baby, vos initiales sont les initiales d'un parti politique, ça vous gêne ?
C'est quoi ?
LR.
Ah, c'est RL, moi. Ouais.
C'est RL.
Ouais.
C'est
parce que moi aussi mes initiales...
Pas, alors là, j'avais pas pensé.
Moi, ça me gêne. Moi, mes initiales, c'est les initiales d'un parti politique. Ouais. Donc, moi, ça me gêne. Ah oui, moi, c'est FN, donc c'est plus...
Non, c'est plus délicat. Oui, il y a norme française aussi.
Mais on commence par le prénom, ça va bien. On
oui, voilà. Bien. Oui, voilà. D'accord,
voilà. On va faire comme ça. Voilà, il faut...
Ouais,
voilà.
Comme on fait d'habitude.
Il y avait des problèmes.
Pour faire dans...
Oui, le problème, c'est quand j'arrive en Angleterre, NF, ça marche pas. En 98, Julie Depardieu, vous écoutiez.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux.
Ah, c'est votre papa qui vous a fait écouter Barbara la première fois ?
Oui, parce que en fait, il avait fait ce spectacle Lily Passion et Barbara, on la fréquentait puisqu'il travaillait.
Oui, ils étaient amis à la maison.
Ouais, donc elle venait. Hein. Elle m'avait donné des robes, du rose à joues. Moi, j'avais 12 ans. Donc, je l'avais croisée en 86 quand lui faisait, je crois, le film de Blier ou. Bon, où il était avec Michel Blanc, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et donc il faisait ça la journée, puis le soir il chantait avec Barbara. Et il faisait les tours des Zéniths dans sa voiture, où ils allaient au restaurant tout le temps. Non, moi j'avais des grands souvenirs de cette femme, mais ils ont mis quand même, elle a mis longtemps à l'écrire cette comédie musicale. Il y a au moins 3, 4, 5 ans, on l'a vue. Après, quand elle est morte en 97, moi j'étais pas là, j'ai pas pu aller à l'enterrement, mon frère y était et tout ça. Et ça m'avait vraiment... ça m'avait fait vraiment de la peine, donc je l'ai réécouté en boucle à partir de 97. Ouais. Mais j'étais déjà branchée opéra, moi. Je suis passée. Bon, mes premiers trucs, ça devait être, Led Zeppelin, parce que franchement, ça m'avait complètement transporté la voix de Robert Plant. Ouais. Et de Robert Plant, je suis passée directement à Mozart. Et après, voilà, j'ai fait un petit détour par Barbara, parce que je me dis, ah oui, j'ai tout redécouvert.
Ouais, c'est ça.
Ah, ouais.
Et entendre Gérard Depardieu chanter Barbara.
Eh bien, écoutez, vous voyez, je l'ai. Moi, je suis sûrement de parti pris, mais je l'ai vu un certain nombre de fois. Hein. Je l'ai vu peut-être 12 ou 13 fois le spectacle. J'adore voir un spectacle plusieurs fois. Mmh. Et j'ai vu 13 versions différentes. Ouais. Ça dépend de son humeur, ça dépend. Il y a une fois, il chante en voix de tête. Tout en voix de tête, on ne sait pas pourquoi. Il chante comme ça. Tout doucement. Et puis là, une autre fois, il fait tout le temps différent.
Mais pour moi, on a eu la chance aussi de le voir, de l'accueillir ici pour en parler, mais pour moi, il ne chantait pas, il l'interprétait.
Ah ouais, on la voit, elle.
Voilà, il l'interprète.
Alors qu'il n'a pas ça.
Physiquement,
c'est un bon jeu de lumière.
Et cette interprétation, elle était encore plus touchante.
Elle la rend vivante.
Encore plus frappante.
Moi, vous voyez, évidemment, je suis de parti pris, mais ça m'a.
Non, mais. Puis, vous voyez, chose, c'est que tous les textes collaient bien aussi à l'histoire et à la vie de Gérard Depardieu. Donc c'est pour ça aussi que ça donnait quelque chose de particulier. Ouais, ça collait bien.
Et au moment où Barbara disparaît, finalement c'est à peu près cette époque-là où Julie, c'est votre premier grand rôle au cinéma.
Mais oui, c'est pour ça qu'il ne peut plus aller à l'enterrement. J'en étais malade.
L'examen de minuit, c'est ça ?
L'examen de minuit, où moi je voulais pas... Vous voyez, Moi, j'étais fleuriste à l'époque, je trouvais ça sympa. Je faisais Rungis à 4 heures, livraison, équeutage des roses, et puis voilà, je faisais. J'étais même allée livrer John Galliano.
Ah ouais,
j'étais
chic.
Ouais, bah, je m'étais fait engueuler parce que j'avais cassé un vase. Mais bon, je m'étais excusée.
Pour une fleuriste, ouais, c'est pas mal.
Je m'étais excusée en anglais, mais j'étais nulle. Oh, sorry. Bon, bah, c'est normal, hein, j'avais cassé un vase. Et moi, ma carrière, c'était. Vous voyez, je touchais plein de trucs. Je savais pas trop. Je faisais quand même de la philosophie parce que je savais pas trop. J'étais encore étudiante, hein. J'étais étudiante à 24 ans, mais bon, j'étais encore là. Et je faisais un peu de fleurs pour gagner des sous, enfin, quelque part. Et Daniel Dubrow me voit, et elle me dit, tiens, bah, je te file un rôle de barman. Je dis, ça tombe bien, j'adore. La bière, je sais la servir, et tout de travers. Et puis après, le rôle de barman s'est transformé en l'énorme rôle. J'ai dit, non, je te jure, j'y arriverai pas. Arrête, il y a plein de gens qui veulent faire acteur. Moi, je suis là. Je c'était servir une bière, normalement, j'avais un tout petit rôle.
Vous étiez dans le déni.
Ben ouais, puis c'était pas ce que j'avais prévu. Je sais pas, je cherchais, hein. J'étais quelqu'un d'assez lent, j'ai cherché longtemps.
Dans ces mêmes années 98, oh, vous écoutiez encore. On a déjà un peu tout dit hein, sur Bowie tout à l'heure. Si vous aviez eu à le rencontrer, vous lui auriez dit quoi ?
Ah, mais ça, je sais pas. Déjà, mon anglais n'est pas fameux. Non, mais je l'ai vu la première fois en 76.
Qui parle français ? Ah ouais ?
Ah, la Villette, oui, oui. Je sais pas. J'aurais aimé, mais en même temps, je sais pas.
Ah, mais qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un que l'on admire tant ?
Bah, c'est ça, en fait. Après, sans tomber dans la banalité, c'est difficile, hein. C'est difficile.
Alors, à cette époque-là, vous, Régis Laspalès, pendant que Julie faisait ses premiers pas au cinéma, vous, c'est au théâtre.
Ah bon ?
Oui, la première fois, une pièce de théâtre, en tout cas, qui a compté, c'est Ma femme s'appelle Maurice.
Ouais. Ah oui, ça, c'est pas le début.
C'est la première de cette pièce qui a duré très très longtemps.
Oui, ça c'est en 2000, mais... Avant, il y a plutôt eu les Two Man Show pendant longtemps. C'est vrai, par rapport à ce que disait Julie, moi, on a un point commun. Moi, c'est vrai, je me suis cherché assez longtemps aussi, puisque je suis venu assez tard au théâtre. Bon, et ça, c'était notre première pièce, une pièce très burlesque de Raffi Chart, où je me travestissais en femme. Mmh. On l'a joué 400 fois. Ouais.
Plus de 400 000 spectateurs.
Oui, on l'a joué 2 ans et demi, on est parti en tournée, on l'a fini à Mogador.
Elle a été adaptée.
C'était très clownesque. Ouais. Et Michel Faux m'a dit que, je ne le savais pas, il était venu plusieurs fois voir, ça lui plaisait beaucoup.
Il y a travestissement,
je ne savais pas qu'il venait.
Un truc à dire ?
Oui, parce que Michel Faux adore tout ce qui concerne le travestissement.
Mais quand il fait la cantatrice.
Il a une grande histoire avec Olivier Pitt, ce point de vue-là. Voilà.
Mm-hmm. Mais ça vous manque moins.
Il n'aura plus d'histoire avec Olivier Pitt,
c'est sûr.
Il est mort ?
Le spectacle d'humour.
Ils sont un peu fâchés.
La relation ?
Non, moi j'ai aussi fait ce métier pour jouer des rôles. Alors voilà, il faut le faire.
On va revenir à... Pardon.
J'espère que mes rôles font rire aussi.
Clairement. Et celui de Fric Frac, encore plus, ça sera le cas à partir du 11 septembre prochain, mardi prochain, au Théâtre de Paris. Marcel Ratafia, bonjour Marcel. Bonjour. Vous êtes spécialiste en argotologie, auteur de l'ABC de l'argot aux éditions Duchesne. L'argot, la naissance de l'argot, c'était fait pour que des personnes se parlent entre elles sans être comprises par les autres, c'est ça ?
C'est un langage crypté. Ouais. Donc, a priori, quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas besoin. Donc c'était plutôt une langue voyoute à la base. On a les premières traces.
Comme pour les bouchers avec les clients.
Ouais, exactement. Mais vachement avant en fait. François Villon, c'est à peu près début de l'argot, tel qu'on le connaît.
16e siècle.
Ouais. Lui c'était un sacré bad boy. Et avant, forcément ça a dû exister, mais on sait pas trop. Avant, c'était plutôt des moines avec des enluminures, tout ça, donc on a moins le côté argot, quoi. Mais celui qui a fait vraiment beaucoup pour l'argot, c'était Victor Hugo. Mmh. Et Eugène Sue, au 19e siècle, le roman feuilleton, ça a été vraiment la mode de l'argot.
Le mystère. Et après...
Et évidemment, alors donc c'est toujours les mauvais garçons ou filles de joie qui emploient l'argot par rapport à l'ordre, pour éviter que les policiers ou les gardiens de prison ne les comprennent. C'est ça le point de départ de cette
langue. Parce qu'ils ont les flûtes de la maison Poulaga.
Voilà. Mmh. Voilà.
Exactement.
Et ensuite, c'est quoi? C'est pour faire brancher les jeunes ou les bandes imitent et reprennent à leur compte l'argot?
Je pense que c'est toujours pour, dans un but de pas se faire comprendre. Aujourd'hui, quand on parle argot, puisque l'argot existe toujours, par exemple, on dit un qui se dé. Qui se dé, c'est très marrant. C'est qui se déguise. Un flic qui se déguise.
Ah,
flic en civil.
Qui se dé, ouais. C'est qui se déguise.
Et d'accord. En fait, la création de mots, elle a toujours un lieu d'être. Donc l'argot ne peut pas mourir.
Mais pour moi, argot sous-entend différentes langues, que ce soit le louchébem, que ce soit le javanais, que ce soit le verlan. Ce sont pour moi des sous-titres ou des sous-chapitres de l'argot. C'est
dans
pas ça
l'argot, on parle arabe, on parle gitan, on parle louchébem. Alors le louchébem n'est pas vraiment un truc de boucher en fait.
Ah bon, je croyais.
On a inventé ça pour la légende, pour leur donner un petit peu de. Mais en vrai, c'était.
Pour moi, c'était dans les halles.
C'est pas faux.
La place du Centre Pompidou aujourd'hui, où se trouvaient les bouchers de Paris.
Alors ils étaient à la Villette, aux abattoirs, et ils se castagnaient avec les forts des halles. Effectivement, ils se rejoignaient dans des terrains vagues et improbables, et bam, avec des coups de poing américains et tout ça, ça y allait.
Et ils avaient ils jactaient à leur manière pour pas que les autres les comprennent, que ce soit les clients d'ailleurs ou les autres bandes.
Ah, c'est clair qu'ils avaient une jactance à défroquer un pet pédophile, quoi. C'était pas du tout.
Défroquer un pet pédophile.
La traduction littérale.
Ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a des argots? L'argot est une langue vivante, c'est-à-dire qu'elle évolue, qu'il y a des nouveaux mots qui arrivent régulièrement.
Bien sûr.
Et qu'est-ce qui fait que ces mots sont acceptés? Est-ce que c'est l'usage, la quantité? Finalement, tout le monde finit par l'employer, donc c'est accepté. Qui les lance? Il n'y a pas des auteurs d'argot.
Quantité, la qualité. Bolos, par exemple, je pense que tout le monde peut dire que c'est un excellent mot. Un bolos.
Ça va, Daniel?
Alors, non, mais
c'est quoi un bolos?
Mais bolos, voilà, parce qu'il y a des notions. C'est très péjoratif, un bolos.
Exactement.
C'est un dealer.
Pas vraiment, en fait, c'est un cave. C'est un type qui a pas. Voilà, je fais du bruit avec
lui. Un pauvre type.
Un pauvre type, c'est un mec qui comprend rien. Qui est...
Ça va, Daniel?
Enfin, quand même. Daniel! La naissance de ce terme-là, c'est pour ça qu'il peut être très dangereux d'ailleurs de l'employer, c'est-à-dire que le dire à un copain pour le vanner en disant tu crains.
Mais ça se dit comment
d'ailleurs? Tu t'es fait bolosser par exemple. Ah, c'est jamais gentil de dire tu t'es fait bolosser.
Mais si vous ne connaissez pas la personne que vous traitez de bolosse, ça peut déclencher une baston, c'est-à-dire que ça peut aller très très vite. Hein. C'est un mot.
Ça date de quand?
En tout cas, je sais pas si c'est rentré dans le dictionnaire.
Parce que moi, je suis peut-être vieux jeu, mais je sais que ça existe, mais je l'ai jamais employé. Je sais pas ce que c'est.
Bah moi, quand j'étais à la cantine, quand j'avais 15 ans, on disait on va damer. Ça n'existe plus.
Non,
ça a disparu. Parce que c'était on va manger. Mais c'était pas très
on
bien. Alors que bolos.
Ça va toujours plus.
Alors c'était.
Cette frontière.
C'est du belge.
Non, fume, c'est du belge, c'est autre chose. Alors, on peut faire un petit jeu. Vous avez,
bien sûr.
Vous avez des mots et on essaie de deviner ce que ça veut dire.
C'est quoi votre niveau d'argot?
Zéro.
Zéro. Enfin, eux, ils sont plus doués que nous parce que dans Freak Frac, il y en a plein.
Tu me fais une cousue? Une cousue, c'est
une cigarette.
Voilà, ils sont là. Les doudounes.
Les seins.
Ça, le petit kiff de Daniel aussi. Morin. La vectance.
On va finir par
la nourriture, non?
C'est la bouffe.
La nourriture.
Ouais, la bouffe.
Le dab, bon, on l'a dit.
Voilà, le distributeur d'argent.
Le chef des gaffes.
Je sais, c'est pour rigoler.
Le chef des gaffes. Alors,
le chef des gaffes qui m'a collé deux jours de mitard pour avoir jacté au Merlan pendant qu'il coupait les tifs. Le chef des gaffes, c'est le
directeur des matons.
Exactement.
Et le Merlan, c'est le coiffeur.
Le Merlan, c'est le coiffeur. Tu viendras me voir au ballon si on se fait poisser?
Prison.
En visite, prison, le truc si... où on se
fait. Non, tu verras en prison si on se fait attraper.
Au parloir, Si on se fait attraper. Ouais, c'est ça. Et je suis seul âbre. Pensez fort à Nicolas Hulot. Je suis seul âbre.
Je suis tout seul.
Je suis tout seul, mais un peu déprimé.
Mais laissez-le tranquille, le pauvre Nicolas. Oh,
on peut plus taper sur l'ambulance.
Tranquille, non, il prend sa caisse, il met la radio, il entend qu'il est triste. Arrêtez.
Il est en train de savourer des bouteilles de champagne.
S'il faut, il a jamais été aussi heureux. L'ABC de l'argot sans se fader le dico, d'une manière extrêmement ludique aussi, avec des dessins, des illustrations. Vous le co-signez avec Lulu Dardis. C'est aux éditions Duchesne. Et c'est classé vraiment dans l'ordre alphabétique, comme un petit dico. Hein, vous le faites.
Ça finit par Zob, évidemment.
Tout finit par là.
Bref.
Où tout commence.
On ne sait pas.
Ah, Nagui, philosophe. Hein, ça ne s'attendait pas. Hein.
J'adore.
On n'est pas loin du verlan parce qu'il y a unche.
Un yinche, ouais, bien sûr, mais le verlan c'est de l'argot.
Non, d'unche.
Non, d'unche.
Ah, non, d'unche.
Ouais, non, d'unche.
On n'est pas loin.
Ça fait plus court.
Le verlan, c'est de l'argot. Et...
Le verlan, c'est de l'argot, bien sûr.
Mais l'argot, c'est pas forcément du verlan, c'est ça.
Il y a une légende sur le verlan. Monsieur de Voltaire avait un voisin qui s'appelait Monsieur de Tervol, apparemment, ça viendrait de là. Mais bon.
Et ils auraient pris ce pseudonyme. Moi, Voltaire, j'avais l'acronyme de son nom, de son véritable nom, c'est pas ça?
Oui, après, c'est une légende urbaine. Hein. Est-ce qu'il faut ajouter du crédit, je ne sais pas.
D'accord, ok, n'insistons pas. Merci mille fois d'être venu. Alors, on dit comment d'être venu à la radio en argot?
D'avoir allégé au TSF, je ne sais pas.
Marcel Ratafia, à propos de cet argot utilisé, mais rassurez-vous, vous comprendrez tout, dans Fric Frac au Théâtre de Paris à partir du 11 septembre prochain, mardi prochain.
C'est une bonne date, là, en septembre, pour s'entendre.
T'as raison,
Tanguy.
Salut les loups. Ça, salut les bolos. Oui, très bien.
Les transports bordelais mènent une guerre contre les frotteurs.
Oui, ils ont mis des autocollants dans les bus pour les responsabiliser dans le cas où ces derniers choisiraient de plutôt se tourner niveau hobby vers le bridge ou la collection de têtes réduites. Mais les autocollants, ça ne sert à rien. Pendant des années, on s'est tapé des autocollants vivés en Europe 1 sans avoir eu envie d'écouter Europe 1.
On en parlera. T'as toujours pas envie. On écoutera tout à l'heure Tanguy Passiro ainsi que nos invités Julie Depardieu et Régis Laspalès. La bande originale sur Inter, c'est jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale. Merci d'être fidèle au rendez-vous avec Leïla Kadour.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour.
Tom Villa.
Bonjour.
Guillaume Guise. Alors, c'est énorme. T'as un problème, t'as perdu la demi-finale ou
pas? Ça fait longtemps.
Tanguy Passiro. Oh. Et nos invités Julie Depardieu et Régis Laspalès. Au Théâtre de Paris, à partir du 11, c'est-à-dire mardi prochain, c'est un véritable compte à rebours qui se traduit par des journées de travail, ouais, de répétition.
Énorme,
Julie, Régis.
Intense. Oh là là. Vous êtes tendu, Régis?
Ah bah oui, attends, bah mardi. Donc... Je n'étais pas au courant. Ça fait un choc.
Si vous voulez,
non, non, je vais travailler. Je travaillerai jour et nuit.
Entre la difficulté du texte de ces didascalies et de respecter les indications de Michel Faux, qu'est-ce qu'il y a de plus dur à engranger? Parce qu'on l'imagine très tatillon, très exigeant, Michel.
Oui, mais très sympa aussi.
Ouais. Hein. Non, j'ai évidemment.
Non, mais c'est fou parce que il l'est en même temps, mais il est vraiment. On rigole tout en essayant d'avoir quand même. Il y a une mini pression sur le texte, mais il est quand même très 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 sympa.
On a de la liberté, oui. On nous laisse de la liberté.
C'est la première fois que tous les deux que vous travaillez avec lui. C'est la toute première fois.
Oui,
donc
oui.
Vous avez un devoir de ne pas le décevoir aussi.
Absolument, absolument. Qu'il soit fier de nous.
C'est mardi, hein, faut pas l'oublier.
Oh là là, avec couturière lundi.
Faut que je le note.
Il est plutôt du genre à être un metteur en scène qui va vous suivre tous les soirs. Qu'est-ce qu'il vous a annoncé?
Ah oui, il fait des notes. Moi, j'ai déjà travaillé avec lui, donc c'est quelqu'un. Ah. C'est quelqu'un. Bah, comme il est
vous
sur scène.
J'ai fait quoi avec lui?
J'ai fait Nono et Misanthrope.
D'accord.
Nono, c'était en 2011.
Et il est plutôt du genre d'accord. à être là à chaque représentation.
Il est sur scène et dès qu'il entend un truc ou quoi, si, il fait. Mais d'ailleurs, il y tient. Hein, pour pas que le spectacle vous voyez, change selon les rires, ouais, selon machin, il tient. Et c'est pour ça que c'est génial d'avoir le metteur en scène avec nous.
Et il fait quoi, des notes ou il y a un débrief?
Bien sûr,
à
il te débrief, hein. Ah ouais. Bien sûr.
Et il s'auto-débrief ou pas?
Ah oui.
Ah, je pense que c'est le premier à être sévère avec lui-même, ça c'est.
Ouais, mais moi je trouve ça très rassurant de jouer avec le metteur en scène parce qu'il voit tout.
Ouais.
Ouais.
C'est vrai, faut une moyenne parce que. Alors il y en a, par contre il y en a d'autres, on les revoit plus après.
Bah ça c'est déplaisant.
Le spectacle commence puis on les revoit plus parce qu'ils font autre chose.
Les metteurs en scène.
Oui.
Ouais, bien sûr.
Oui.
Mais on les voit quand même.
Comme ça ils vous embêtent plus.
Ils viennent quand même prendre le pourcentage qui est dû de la recette.
Ah hein. Voilà. Ah,
bah, ils le reçoivent, hein, oui, ils n'ont plus besoin de se.
Ils n'ont pas besoin de venir.
D'accord.
Non, bon, là on va voir.
Il fait des
méthodes.
Ouais,
Revenons à cette pièce pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission et rappelons donc dans le rôle de Marcel, Régis Laspalès, vous êtes soit le séducteur de ces dames, René et Loulou sont très attirés par votre gentillesse, votre physique.
Oui, alors on est dans le Paris des truands, hein, dans les années 30, donc mais moi Marcel, je suis employé d'une bijouterie. Donc
mais vous êtes
un type
gentil.
Très honnête, voilà, très gentil, évidemment serviable. Un peu naïf puisque il se rend pas compte des gens que les gens qu'il côtoie le dimanche sont des truands.
Ils sont intéressés.
Et il les côtoie parce qu'il est attiré par cette jeune demoiselle, Loulou.
Qui travaille...
Qui travaille dans une maison, mais...
Travaille en maison.
Ouais, autant couleur.
Donc évidemment, il tombe de très haut le jour où elle lui apprend ça.
Où elle apprend qui elle est. Mais en fait, tout bascule lorsqu'il y a une descente de police dont il est victime. Et c'est là où on voit finalement, une espèce de code d'honneur de la part des voyous et de cette fille qui veut quand même pas que l'innocent Marcel se fasse embarquer au même titre que les autres voyous. Et elle fait tout pour le sortir de.
Ouais, parce qu'on y est quand même pour beaucoup dans le fait qu'il se soit fait embarquer. En plus, c'est nous qui lui avons piqué son
larfeuille.
C'est chaud, les bras coupés, qui lui a piqué son larfeuille pendant le contrôle d'identité. Donc il se fait embarquer, le pauvre.
Ouais.
Et donc on va tout faire. Moi, je dis ah non, t'y vas. Hein. Tu vas lui rendre son portefeuille parce que je veux quand même essayer de l'utiliser pour ce fameux cambriolage.
Il y a beaucoup de morale. Il y a toujours ce suspect de savoir comment les choses vont se passer. Mais c'est surtout extrêmement drôle. Il y a des situations, il y a des joutes verbales en permanence. Ça va extrêmement vite. Et je le disais tout à l'heure, ça va vite. Et même quand il y a des silences, ça fait partie des vannes et des éclats de rire. Évidemment, parce que c'est la gêne créée ou la non-réponse est un effet comique. Le risque d'avoir des fous rires, vous y pensez ou pas?
Ah oui.
Ça,
ah oui.
Ça vous inquiète, Julie?
Notamment leur scène où ils sont alcoolisés tous les deux.
Ouais, bah
moi,
oui.
Je suis là. Hein. Ah non, c'est trop drôle. Donc, mais je m'en fiche parce qu'à un moment, je me casse sur mon lit.
Tu tricotes.
Je peux ricaner, mais tout, vous voyez, on peut. Mais c'est vrai, quand je suis avec eux, c'est drôle.
Et vous, Régis, vous avez tendance à rigoler facilement?
Vous êtes client des fois, ouais.
Pas facilement, mais bon, je sais que forcément, il va y en avoir de temps en temps.
Bah oui.
Bon, il faudra faire attention que ça aille pas trop loin.
Ça déborde pas.
Oui et non, parce que en tant que public, je peux vous garantir que nous adorons ça, parce que quand on est.
Alors
l'autre problème, si je peux me permettre sans citer aucun nom, ce sont les comédiens qui font toujours le même fou rire, toujours au même endroit.
C'est-à-dire le faux fou rire.
Voilà, c'est
pour
ça.
Pour faire un effet.
Exactement.
Non, mais ça, non, ça c'est pas.
Non, mais vous êtes d'accord avec moi, ça existe. Quoi.
Oui, mais ça, j'aime pas ça non plus.
Ne nous dis pas qui, mais quand même.
Si ça arrive, ça doit être vrai. Et ça doit être unique ce jour-là, voilà. Faut pas que ce soit faux.
Mais en tout cas, c'est vrai que
on n'a pas besoin de ça.
Si c'est unique, c'est là où ça fait encore plus plaisir.
Ah bah là,
Ouais, ou ça nous gêne terriblement.
Exactement.
Parce que des fois, tellement tu ris, tu peux même pas parler, et donc tout le monde attend après toi. Enfin, ça arrive. Donc t'es écarlate et t'essayes juste que ça s'arrête.
La semaine prochaine, Fric Frac avec Julie Depardieu, Régis Laspalès et Michel Faux qui met en scène, qui joue, et je ne veux pas oublier non plus Emmeline Bayard. Voici Tanguy Passion. Tanguy, Bordeaux est une ville agréable.
Oui, on s'y balade le long de la Garonne, le corps rempli jusqu'à la gueule de pinard. Et on finit par chuter dans le fleuve, puis s'y noyer, mais dans une convivialité que n'aurait pas renié Patrick Sébastien en pleine fiesta lorsqu'il retire son slip à trompe et fait mine de bifler son neveu. On flâne, place de la Bourse, sur le miroir d'eau, puis le miroir d'eau se déclenche et on se retrouve tout trempé par en dessous, ce qui permet de postuler à la location d'une chambre en EHPAD avec les autres fans des Rolling Stones. Bref, à Bordeaux, on est heureux, sauf Alain Juppé qui en permanence dégage la gaieté du chasseur qui, en creusant la terre dans la forêt pour débusquer un renard, tombe sur le corps d'un scout mort. Le seul souci, c'est qu'à Bordeaux comme ailleurs, des hommes, ces êtres balourds, infoutus de se dire que le fait qu'ils ont un pénis ne les contraint pas à forcément l'utiliser. On peut s'en servir en tant qu'élément décoratif. On achète bien des fausses têtes de cerf en carton, bon ben un pénis c'est pas plus moche. Des hommes donc harcèlent des femmes. Ils les sifflent, les frottent, les insultent, ce sont des cons. Donc on devrait les mettre en ligne, embaucher Chuck Norris, le samouraï poilu fan de Trump, et lui dire « Frérot, chacun de ces mecs est un électeur démocrate bobo qui habite Brooklyn, chausse tes Santiags en peau d'Indien et tape-les entre les jambes. » Mais ce n'est pas tenable financièrement puisqu'il faudrait payer l'avion aller-retour à Chuck Norris, et pas en low cost. Parce que si vous lui dites « Monsieur, c'est 29€ de supplément la coupelle de cacahuète », il vous enfonce son gros orteil dans l'œil droit en hurlant « Banzai ».
les transports en commun bordelais, le réseau TBM, ce qui ne signifie pas ce que vous pensez, mais Transport Bordeaux Métropole Bande de Port, a donc décidé à la place de coller des stickers dans les tramways avec des pictogrammes barrés. Alors sur l'un d'eux, on voit un type assis dans le bus, les cuisses écartées. Ça s'appelle du manspreading. Ouais. C'est typiquement masculin. La seule dame à avoir fait ça, c'est cette grosse lourde à Walpé qui a posé sans slip pour Gustave Courbet, faisant tomber du liquiqui son teckel. Certains hommes, en effet, ouvrent leurs jambons afin d'exposer symboliquement leur phallus. C'est inconscient, ça veut dire qu'on domine. Dans le métro, on peut pas sortir sa carte gold en criant « j'ai le même compte en banque que Nagui, les losers », parce qu'on se la fait piquer, donc on mise tout sur le phallus. Là, au moins, personne ne va se barrer avec, hein, parce qu'il faudrait une scie sauteuse, et dans le métro, il y a pas de prise. Il y a déjà pas de 4G, ni de Wi-Fi. Le métro, c'est une plongée dans le monde d'il y a 25 ans. Quand on demande à un mec pourquoi il court sur le quai, il répond « c'est pour pas rater le début de Coucou, c'est nous ».
Bon, revenons sur ce phénomène du manspreading, c'est une calamité pour les hommes comme pour les femmes.
Bah bien sûr, parce qu'elles n'ont pas, les femmes n'ont pas de place. Tout ça parce qu'un gonzé gothique a cru que durant son sommeil, on lui avait greffé un sexe de baleine. Après, quand il passe devant une poissonnerie, il se met à crier « j'en place une pour mes poteaux partis trop tôt ». Or, il faut avoir le sens des proportions. Toute personne qui regarde Silence sa pousse sait que planter un ficus dans un pot à baobab, c'est avoir surestimé la taille du ficus. Vraiment, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser pour métaphore pour éviter de tomber dans la vulgarité et prononcer le mot tub. Mais pire que le manspreading, il y a la mode des frotteurs. Hein, ces gens que moi, qui cherche à fuir tout contact humain, je ne comprends pas. Quand un pote du showbiz veut me claquer la bise, je fuis. D'autant plus rapidement que si en se faisant, j'ai sniffé les restants de coke qui traînaient dans sa barbe de hipster. Donc vous êtes là tranquillou dans le métro, et d'un coup vous sentez contre vos fesses une surface bombée. Vous vous dites, qu'est-ce donc? La tête d'Igor Bogdanov qui s'est agenouillé pour refaire son lacet? Ou alors Pac-Man qui est tout rond? Mais dans ce cas, ça voudrait dire que Pac-Man existe? Purée, j'en étais sûr. Vous vous retournez, et là c'est un bonhomme non pas jaune, mais rouge, hyper excité, qui depuis 87 reste persuadé que la lambada se danse derrière la personne. Les transports bordelais ont donc agi, c'est-à-dire qu'ils ont produit un autocollant. Hein, si le harcèlement continue, ils éditeront un poster représentant un type frottant une femme. Avec cette indication, je cite, en cas d'affluence, veillez ne pas vous frotter à votre voisin et voisine. Donc voisine, je veux bien, hein, mais voisin, c'est symbolique. Parce que les mecs frottés, ça se compte sur les doigts de la main d'un tourneur fraiseur qui s'est fait appeler l'avant-bras par sa machine. Hein, pendant des années, j'ai pris le métro. Jamais je ne me suis fait frotter. Les gens ont maintenu leur distance. J'avais l'impression d'être une voiture immatriculée 2A sur une route nationale. Hein, et pourtant, Dieu sait si j'ai un joli petit cul. Ouais. Ce qui m'a valu une embauche de votre part, Nagui. Un petit cul auquel Laurence Bloch, directrice de France Inter, pense dans des rêveries inavouables. Mais elle ne peut pas formuler, donc elle me parle de mon talent, bien sûr. Il y a donc à Bordeaux des messages à destination des frotteurs. Hein, ils vont peut-être se dire, c'est vrai, j'ai tort, c'est pas si bien, on use ses vêtements, je vais plutôt prendre un bon bouquin. Vous y croyez? Moi non, c'est de la connerie. On ne parle pas aux frotteurs bordelais, on les prend et on les soigne, c'est-à-dire qu'on les enferme 48 heures avec Alain Juppé, le teint livide qui tire la tronche, après vous n'avez plus envie de sexe, jamais. Les transports en commun, c'est donc atroce. Les gens sentent, ils suent, ils se frottent. Le bus, c'est l'antichambre de l'enfer. Émile Louis conduisait un bus, un tracteur. Hein. Parents, dites à votre enfant Enzo, mange ta soupe ou je te prends un forfait Navigo, il va s'en enfiler 4 litres ce petit morveux. 9 femmes sur 10 hein, disent avoir été harcelées dans les transports en commun, c'est au moins 27 de trop.
Bravo Tanguy.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
C'est vrai que je trouve ça totalement dingue. Je comprends que les femmes puissent être gênées par les bonhommes qui s'assoient et qui écartent les cuisses comme si c'était trop gênant d'avoir les genoux rapprochés. Mais même moi, en tant que garçon, je trouve ça insupportable.
Parce que tu es jaloux.
Non, je suis jaloux.
Parce que tu portes pas de jaloux.
Truc totalement prétentieux du genre. Je peux pas rapprocher
désolé,
mes jambes.
Je peux pas. C'est physique.
C'est ça. C'est physique. Bon, revenons à Fric Frac et non plus à ce qu'il y a dans le froc. Fric Frac, ce sera au Théâtre de Paris la semaine prochaine. Lorsque on vous a... C'est ton téléphone.
Non, excusez-moi.
C'est pas grave.
Bientôt fini.
Lorsqu'on vous a parlé de Fric Frac, est-ce que tous les deux vous la connaissiez, cette pièce, ce film, Julie Depardieu, ou est-ce que vous êtes replongé dedans, vous avez dit, il faut que je relise, il faut que je revoie le film.
Bien sûr, non, moi je la connaissais pas, moi.
Du tout, d'accord.
Je connaissais de nom.
Mais je l'ai jamais vu avec mes parents.
Et reprendre, ou même à la télé, non? Et reprendre.
J'aurais pu, mais je l'ai pas vu.
Et reprendre Arletty, c'est une pression. Vous voyez, vous dites bon, aujourd'hui plus personne ne se souvient.
Si, mais moi j'ai eu peur, bien sûr. C'est pour ça que je ne me suis pas replongée intégralement dans le film.
Vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui. J'ai préféré dire ah bah je l'ai pas fini ou.
Vous voyez. D'accord. Et vous, Régis, vous le connaissiez évidemment.
Oui, bah, je l'avais dans mes livres de théâtre.
Et vous l'aviez joué au cours Simon.
Je l'avais étudié au cours de théâtre au cours Simon. Alors. J'ai vu le film il y a longtemps, mais je pense que la pièce est mieux.
Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette pièce? C'est au-delà de l'humour, c'est qu'il y a quand même il y a une toile de fond particulière.
Ouais, c'est qu'on amène
un Paris d'une époque.
Voilà, on amène le public dans un autre monde, dans une autre époque. C'est ça qui va, je pense, faire une différence avec les comédies traditionnelles.
Ouais, une autre société aussi, c'est ça. Hein, c'est le monde des truands, Montmartre. C'est tout d'un coup, c'est revivre.
Titi parisien.
Et puis il y a une autre folie. C'est pas du vaudeville, mais on rit quand même. Il y a quand même des entrées, des sorties, des surprises.
C'est visuellement, c'est une splendeur.
Alors, on parle.
Ah, il y a pas de décor Ikea. Ni de costard cravate, hein, ça non.
Non, le décor est assuré par Bernard Faux et Citronelle Duvet. Ils sont deux à avoir travaillé sur le décor. Et quant au casting, je le redis, vous êtes tous les trois, Julie Depardieu, Régis Aspalès et Michel Faux sur scène, avec Georges Becot, Fabrice Kals, Emeline Bayard, pardon, qui interprète René, Yannis et Zaidi, Antoine Caran, Audrey Langle et Roland Menou. Nous avons, je sais même plus où on en est, je suis totalement perdu.
Non, mais t'inquiète pas, l'émission. Tu vas bien, non. On continue, ou c'est un peu Daniel, qu'est-ce que tu veux, Daniel? Tu veux y aller maintenant?
Moi, je suis prêt, c'est quand vous voulez.
C'est vrai,
je suis dans les starting blocks depuis 11h. Je sais que ça vous coûte, Nagui, mais il y a un moment, il faut y aller.
Il faut lui passer la parole à
un moment. Ça coûte plus cher à Inter qu'à moi.
Il faut qu'on partage.
Ah, dis donc, quel enthousiasme, ça fait plaisir.
Bande de salauds, bande d'ordures,
encore
bande de fumiers. Non, bien sûr que non, je ne parle pas de mes collègues de la bande originale qui, bien que peu fréquentables, ne méritent pas pour autant cette bordée d'injures. Non, je parle de tous ceux qui se sont moqués, ont accablé, raillé ce pauvre Nicolas Hulot à l'occasion de son discours de départ du ministère de l'écologie. Exemple hier, Jean-Michel Apathy.
Les larmes de Nicolas Hulot m'agacent, la planète est en train de crever. Déjà quand il était au gouvernement, il pleurait tous les trois jours sur son sort. Et là, le voir pleurer, moi ça m'agace. Moi, je m'en fous des états de Nicolas Hulot.
Oh, la violence! Quelle méchanceté! Quelle saloperie, ce mec-là! Et la sensibilité, on n'y a pas droit. Et la délicatesse, on n'y a pas droit. Et la tendresse, on n'y a pas droit. Nicolas Hulot, c'est l'émotion à fleur de peau. Nicolas, il parle aux arbres et les arbres lui répondent. Nicolas, il fait corps avec la nature. Et la nature le lui rend bien. Il a un teint de jeune fille, des cheveux de sirène, un fessier de puma. Nicolas Hulot, contrairement à la cagole qui s'épanouit quand elle bronze comme un croque-monsieur et qu'elle transpire de l'aisselle comme un camionneur moldave, pour Nicolas, le réchauffement climatique est une calamité. Elle voudrait que ça aille plus vite pour sauver la planète. Et les ours polaires qui, bientôt, pour rester frais, vont envisager l'épilation intégrale. On peut être sensible tout en étant conscient que l'urgence est là. Alors bien sûr, il faut combattre, il faut lutter, chacun de notre côté, à notre petit niveau. Nagui, qui quand il n'écrit pas des mots à Leïla, est un bel exemple de tout ça. Pour lutter contre la surproductivité, il ne mange plus de viande. Pour protéger la nappe phréatique, il ne prend plus de douche.
C'est vrai.
Mais bon, vu l'état des choses, il faut être plus radical. Et comme Nicolas n'était pas du tout soutenu pour mettre en route ses réformes radicales, il a craqué. Il n'en pouvait plus de ses promesses non tenues. Moi, je les comprends, les larmes de l'ancien ministre. Moi aussi, il m'arrive parfois de pleurer à chaudes larmes en pensant à la misère du monde qui nous entoure. Quand je pense aux espèces menacées qui, lentement mais sûrement, marchent vers l'oubli. Des espèces comme le paresseux, le grand requin, le tigre du Bengale. Et même nous, les hommes, on commence à payer l'addition et ça me chagrine aux larmes. Vous êtes sûrement rendu compte, ça n'a pu échapper à personne. Il y a moins d'une heure, vous l'avez constaté, c'était trop horrible pour passer inaperçu. Notre humoriste Guillermo supporte de moins en moins le réchauffement. Il le paye physiquement. Il a la langue qui gonfle. Du coup, son élocution est entravée. Les mots se télescopent dans sa bouche. Résultat, un débit mal maîtrisé, une diction pathétique, des bruits parasites. Bref, une chronique inaudible. Et c'est dommage parce que je suis sûr qu'à la lecture, le papier est assez drôle. Mais à entendre, c'est un carnage. J'étais gêné pour lui. Perso, moi, qui ai un grand sens de l'observation, je lui donne 2 mois à vivre, 3 mois maximum. En tout cas, vu le débit, il verra pas Noël, c'est sûr. Tout ça pour dire qu'on peut avoir la fibre écolo, le combat chevillé au corps et la larme généreuse. Laissons les poètes s'épancher lacrymalement. Un peu de sensibilité. Dans ce monde de fumier, ça peut pas faire de mal. Allez, à demain et vive Nicolas.
Merci,
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Une interview de Michel Faux que tu as sous les yeux, je pense que vous avez dû la lire, où il dit que le théâtre devient frileux. Est-ce que vous le pensez, Julie, Depardieu, Régis, ça
se passe un petit peu.
Ah, moi, je t'en pense tout pareil que Michel.
Il y a moins de comédies délirantes.
Il y a moins de risques pris au théâtre.
On essaye de, comme d'être... si les directeurs avaient un peu peur de des choses délirantes, burlesques, un peu folles. Tout est, alors il y a de très bonnes, évidemment, une très bonne comédie, mais c'est très dans l'air du temps, très policé, très
Mais pardon,
des sujets de société très...
On peut aussi vous faire le reproche, ou faire le reproche à Michel Faux, de reprendre Fric Frac, qui était un succès, qui est une pièce succès, et entre guillemets, sans risque, oui c'est ça.
Ah, sans risque, je... Bah, d'ailleurs, si, il y a toujours un risque.
C'est drôle avec de bons comédiens.
Son dernier récital, c'est de la création, le récital qu'il a fait.
Ah oui, non, mais c'est pour opposer ce que dit Michel Faux, qui dit, voilà, le problème, c'est que les acteurs se ressemblent, les pièces sont raisonnables, les metteurs en scène sont raisonnables, et c'est vrai que, du coup, s'il joue l'avocat du diable, on peut dire, bah oui, Michel Faux va chercher des textes un peu oubliés, les ressusciter, les remettre en scène, est-ce que c'est ça la nouveauté?
Pour être totalement honnête, Leïla, cette phrase mise en nez...
Ça ne t'ensemble pas.
Pour être tout à fait honnête, cette phrase mise en exergue par le journaliste de je ne sais plus quel journal, JDD, c'est JDD, faisait plutôt référence à la reprise de Tartuffe par Weber et Arditi, dont on parlera d'ailleurs demain. Parce que.
parce que ça a été... On devait en parler demain, et puis bon, il y a
des choses. Non, mais c'est que l'argument de Michel, c'est qu'on lui a offert, pour son anniversaire, je crois pas moi, hein, il s'est fait offrir un pariscope de l'année 1977. Ouais. Et là, à l'opéra, il n'y a que des stars au théâtre, c'est génial, vous voyez. Ouais. Il dit juste, ah bah dis donc, on a perdu quelque chose un petit peu, dans l'audace des programmes et dans la qualité.
D'accord, non, mais c'est
voilà,
c'est mérite d'être précis. Pour les projets à venir, Julie, on vous retrouvera dans un film. C'est quoi cette famille? Deux, c'est la suite de Gabriel, Julien Laferrière, et dans la saison 2 encore des Chamois. Ça, c'est une
oui. Tout à fait. Ben, on l'a faite. Vous allez la retrouver, je sais pas quand, en décembre peut-être.
Je sais pas.
Mais on tourne la 3.
Déjà.
Bah non. Au mois de janvier, je crois.
D'accord.
Bah, faut la neige, je sais pas.
D'accord. Vous buvez à peu près combien de litres d'eau par jour?
Bah là, c'est exceptionnel. Je sais pas quoi faire, donc je bois. Mais rassurez-vous, non. Je sais pas quoi faire.
Là, on est à un litre et demi.
Je sais pas quoi faire.
Juste pendant l'émission, un litre et demi. Très bien. Régis, je ne peux pas faire autrement que tous les fans, et vous m'avez dit d'ailleurs, ils vous posent toujours la question.
Oui.
Quand est-ce qu'on vous retrouve?
Voilà, je sais pas.
Tous les deux sur scène.
Vous avez envie?
Je ne sais pas, ça se refera, je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir.
Ah non.
Déjà, alors,
c'est vrai que j'avais envie de jouer des rôles, on fait ce métier pour ça aussi. J'ai envie aussi de tourner un peu plus.
Faut retrouver le désir.
Oui.
Et vous pensez qu'on vous envoie moins de scénarii parce que vous avez justement ce rôle comique, ce duo comique, et qu'on ne pense pas à vous pour certains rôles?
Peut-être, mais en tout cas... je pense qu'on refera quelque chose, oui.
Et avec quel réalisateur aimeriez-vous tourner?
Je sais pas. Ceux qui veulent bien, ceux qui sont bons, quoi.
Mais alors, qui est bon?
Mais
pour
je
vous
sais pas, je sais pas. Ça dépend
du style de cinéma qui vous plaît.
Ça dépend du rôle, du personnage. Il faut que ça vous corresponde, comme c'est le cas dans cette pièce. Mm-hmm. Et c'est là que ça marche. Alors.
On est emporté par un rôle et par une histoire.
Il faut qu'il y ait une évidence.
D'accord. Des excuses à présenter, Daniel.
Bien sûr, désolé pour les fans de Guillermo, qui, comme la semaine dernière, ont entendu que leur idole, toujours en bafouillant, était nettement meilleur en interro qu'en humour. Trois bonnes réponses en début d'émission. Waouh, la vache, tu mériterais presque l'asile politique. Désolé pour Julie Depardieu, qui, on l'a découvert ce matin, a subi 5 opérations du nez. Vous savez, Julie l'a dit, Nagui nous a confié à la pause que les 5 morceaux, il les avait récupérés pour rallonger le sien. Donc, comme quoi, il vous remercie indirectement. Désolé pour le talent de Lewis Hamilton, la carrière d'Alain Prost et la mémoire d'Ayrton Senna qui ont été souillés par l'infâme Nagui et son imitation de la Formule 1. Ah, Nagui, le pétomane.
Tu prends des risques aussi. Mais tu prends des risques.
On a besoin d'un mec qui se mouche, là. C'est n'importe quoi.
C'est ce qu'on a entendu.
Merci beaucoup et merde pour Fric Frac. Mardi, Julie Depardieu, Régis Aspalès étaient nos invités. Demain, nous reparlerons sans doute de Michel Faux avec Pierre Arditi et Jacques Weber qui sont nos invités pour Tartuffe.